Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Elle est l'un des lieux les plus visités au monde, avec plus de 7 millions de visiteurs par an, dont 86% d'étrangers. Elle, c'est la Tour Eiffel, bien sûr. Et si les Français l'aiment plus que tout, force est de constater qu'ils y mettent rarement les pieds. Savent-ils seulement que leur monument préféré, inauguré en 1889 pour l'exposition universelle organisée en l'honneur du centenaire de la Révolution française, devait être détruit au bout de 20 ans? Si l'on n'avait pas eu l'idée en 1906 d'installer une station de radio à son sommet, la Tour Eiffel aurait été rasée purement et simplement. Non seulement elle a survécu, mais elle est devenue le symbole de la capitale française. Depuis qu'elle existe, quel visiteur, de la célébrité au simple touriste, n'a pas voulu se faire photographier devant elle depuis l'esplanade du Trocadéro ou du côté du Champ de Mars? Alors, dans ce nouvel épisode en deux parties, je vous emmène visiter la Tour Eiffel du sol au plafond pour vous expliquer sa genèse et sa construction. Seconde partie, harmonie et force. Harmonie et force, ces deux mots rapprochent à eux seuls Gustave Eiffel des ingénieurs artistes de la Renaissance italienne. Ils auraient pu être de Léonard de Vinci. Lorsqu'Eiffel se présenta au concours décidé par le commissariat de l'exposition universelle, il savait déjà qu'il sortirait vainqueur parmi les 107 candidats en lice. Le fidèle Locroy s'était assuré que son protégé n'aurait rien à craindre de la concurrence. Et puis, Eiffel n'était pas un jeune premier. À 52 ans, il avait déjà un glorieux passé d'architecte. Il s'était fait connaître dans la construction de ponts prestigieux dans le sud de la France, en Espagne, à Porto Rico et jusqu'en Asie. Le viaduc de Garabit, avec son arche en unique volée traversant les gorges de la Truyère, le viaduc de Maria Pia, la poste centrale de Saïgon, tenaient leurs majestueuses envolées à l'utilisation systématique du fer. Il était dès lors impensable de ne pas faire appel à Eiffel dans une exposition qui devait consacrer le triomphe du métal et du verre, matériaux d'avenir sur la pierre et le bois. Ces matériaux archaïques se devaient de consacrer par leur disparition le bannissement définitif de l'Ancien Régime. Selon Gustave Eiffel, les qualités principales du fer tiennent à sa résistance au vent. Les édifices de pierre de taille sont fragilisés par l'instabilité des mortiers, de ciment ou de plâtre. Le fer, lui, peut acquérir une élasticité prometteuse en lui faisant subir quelques modifications chimiques. Eiffel, sitôt sorti de l'école centrale, a commencé sa carrière dans une France marquée par l'essor de la métallurgie. Dans le nord, en Picardie, dans l'est, les bassins miniers peuvent produire des quantités extraordinaires de métaux. Les chantiers s'organisent d'une manière rapide, rationnelle, efficace, même si c'est au prix, on le sait, de l'utilisation d'une main-d'œuvre corvéable à merci. Près de Nancy, c'est l'usine Foult Dupont qui va fournir à Eiffel l'essentiel de ses matériaux de construction. C'est une usine modèle, avec sa cité ouvrière spécialement conçue, bien entendu, pour le confort de ses mineurs et fondeurs. Elle peut produire 300 000 tonnes de métaux par an. Dans ses ateliers, Eiffel a estimé le poids total de fer nécessaire à la confection de sa tour à 7 000 tonnes, auxquelles il faudra ajouter 2 000 tonnes de boulons. Dans ses précédents chantiers, il avait été amené à délaisser l'usage de la fonte, trop peu résistante à la force du vent. Le fer, à condition de subir quelques modifications, devait pouvoir permettre d'ouvrir la voie à des constructions grandioses. Les usines Foult Dupont se sont rendues maîtresses dans la technique d'affinage de la fonte brute appelée puddling. Par oxydation, on obtient un fer à la fois robuste et souple, capable de résister aux intempéries. Mais Eiffel ne va pas s'arrêter à faire modifier les matériaux de base de ses constructions. Il a appris comment, à l'étranger, et notamment en Angleterre, l'utilisation de fer dans la construction des ponts a été desservie par la manière dont les ouvriers travaillaient sur les chantiers. Les matériaux arrivaient bruts sur le site et les artisans et ouvriers retravaillaient les pièces sur place en fonction des contraintes techniques. Outre que cela faisait perdre du temps, il fallait un grand nombre de personnel sur le chantier. Les accidents de travail étaient nombreux. Pour certains ouvrages, comme le monumental pont de Force, les morts se comptaient par dizaines. Eiffel va donc exiger que les pièces détachées de sa tour arrivent sur place déjà préparées pour l'assemblage. Cela nécessite bien sûr un travail en amont d'une absolue précision. Les croquis préparatoires vont se compter en dizaines de milliers. Et sur place, les ouvriers, dont le nombre ne dépassera pas 250, n'auront qu'à assembler ce qui se présente comme un puzzle en trois dimensions. La mécanique est parfaitement huilée. Aucun accident mortel ne sera déploré pendant le montage. Pourtant, les oiseaux de mauvais augure avaient assuré qu'on ne trouverait aucun homme sensé pour travailler sur un chantier pareil et rester pendu dans le vide à des centaines de mètres. Eiffel aura raison de ses empêcheurs de tourner en rond. Il paiera ses ouvriers suffisamment généreusement pour que le chantier, malgré deux grèves d'ailleurs rapidement calmées, parvienne à son terme. Il faudra moins de 2 ans pour dresser la tour, quand il avait fallu 40 ans pour élever l'obélisque de Washington à une hauteur 2 fois moindre. Dans Paris, les badauds ne manquent pas pour s'arrêter sur le Champ de Mars et suivre d'un œil circonspect l'avancée des travaux qu'aucun trouble fâcheux ne viendra pourtant ralentir. Cependant, la pose des 4 piles d'où va s'élancer la tour a de quoi susciter l'effroi. Énorme volume de béton d'où sortent des tiges non moins énormes. Elles ont nécessité le forage d'une zone où le sable, les pierres de toute nature et l'humidité due à la proximité de la Seine sont autant de paramètres à maîtriser pour assurer la stabilité de l'édifice. Eiffel dispose pour ce travail d'une méthode de caisson à air comprimé qui permet de se frayer un passage dans les terrains de toute nature. Il en connaît la sûreté, un même procédé a été employé pour la construction des prestigieux magasins du boulevard Haussmann. Lors d'une visite des membres du gouvernement et de la presse, le ministre Locroy fera sensation en descendant lui-même dans un des caissons pour prouver l'absolue sécurité de leur utilisation. Durant toutes les étapes de la construction, Eiffel se rendra sur le chantier, inspectant chaque moment de la manœuvre. À la tête de ses ouvriers, il a placé un certain Jean Compagnon, ancien communard repenti. Un choix pertinent que celui de cet homme, qui par son passé de révolutionnaire, a autorité pour apaiser tous les éventuels conflits. Par sa présence, Eiffel veut montrer aussi que le patron, c'est lui. Pourtant, il n'est pas le seul, unique et génial inventeur de la tour qui porte son nom. Parmi les brillants spécialistes qui constituent son équipe, on trouve 2 ingénieurs, Koechlin et Sauvestre, dont la postérité n'a pas retenu le nom, alors qu'ils sont les auteurs de la première esquisse de la tour de 300 mètres présentée à leur patron. Ce dernier se montra d'ailleurs sceptique et demanda des améliorations. Sauvestre remania le dessin et établit la silhouette que nous connaissons, en faisant du premier étage un espace de vie propre à organiser fêtes et banquets. Les travaux avancent à vitesse éclair. Il y a d'abord les fondations qui ont nécessité de déblayer 50 000 mètres cubes de terre pour y loger 10 tonnes de fonte. Puis les arcs partant de chaque pile, lancés à 50 mètres de haut, et pourvu de tympans décorés portant des ornements où sont inscrits des devises et les noms des héros du devoir. Sur la large poutre ceinturant le premier étage de la tour, Eiffel a souhaité célébrer le génie humain en faisant graver les noms de 72 scientifiques, ingénieurs et industriels. Bon, malheureusement, il ne lui est pas venu à l'idée d'y faire figurer une seule femme. Pourtant, le nom de Sophie Germain, génie des mathématiques, reçu en 1816 au concours de l'Académie des sciences pour ses travaux sur la théorie des surfaces élastiques et première femme autorisée à assister aux séances de l'Institut, n'aurait en rien déparé ceux de messieurs les inventeurs de la saponification et de la chaudière tubulaire. « le premier étage est maintenant achevé. Eiffel marque une pause. C'est le moment de conquérir la presse, une fois pour toutes. En mai 1888, c'est chose faite.
Monsieur Eiffel, guidant lui-même ses 150 invités, à travers les lignes brisées, des étroits escaliers qui chevauchent avec des retours brusques dans l'un des quatre piliers, traversant des enchevêtrements indescriptibles de fer, où les lignes les plus bizarres, les dessins les plus extraordinaires fuient sous les pieds, tandis que Paris surgit peu à peu des quatre coins de l'horizon avec ses dômes, ses flèches, ses tours et son enceinte.
L'invitation mentionnait, au terme de l'ascension, un repas sans cérémonie. Le déjeuner s'avéra en fait pantagruélique. Assis à côté des directeurs de La Lanterne et du Temps, Eiffel a placé des députés et des écrivains à la mode, parmi lesquels l'incontournable Francisque Sarcey. Et ça marche. Nombre de détracteurs s'avouent alors conquis. Seul Maupassant, sarcastique, affirme qu'il aurait aimé dîner tous les jours à la Tour Eiffel parce que c'était le seul endroit d'où il ne la voyait pas. Alors pour convaincre les derniers réfractaires, lors de l'exposition, Eiffel s'efforça de montrer que sa tour était d'un intérêt capital pour la science. D'abord, elle permettait d'installer des instruments de mesure pour le temps. Elle donnait à atteindre une altitude propice aux observations astronomiques. Et elle était aussi l'occasion de vérifier le comportement de l'organisme humain en altitude. On organisa des ascensions à pied de l'édifice. Les scientifiques délégués aux mesures du pouls et de la tension des volontaires observèrent avec beaucoup d'intérêt l'augmentation des battements de cœur à mesure que l'effort devenait difficile. Étonnant. On consigna aussi pieusement le comportement quotidien des employés travaillant au premier étage. On observa que les femmes qui travaillaient au restaurant avaient plus d'appétit quand elles se trouvaient sur la tour que lorsqu'elles étaient chez elles. Mais la tour avait une utilité autrement plus sérieuse. Elle serait en cas de guerre, un point de renseignement unique au monde. Plus besoin de ces ballons captifs qui ne peuvent accueillir qu'un nombre restreint d'observateurs. Depuis la tour de 300 mètres, on pourrait voir l'ennemi arriver de loin, de très loin, permettant aux états-majors d'organiser une riposte précise. Et si l'ennemi tentait de lancer quelques obus, le treillis ajouré de la tour permettrait de diminuer les risques d'impact. Toutes ces informations étaient largement diffusées au public de l'exposition. Sur les 35 millions de visiteurs, 2 millions seulement se risquèrent à l'ascension par les ascenseurs révolutionnaires conçus pour les mener jusqu'au sommet. Parmi eux, les rois de Suède, de Grèce, du Portugal, le prince de Galles, le shah de Perse, l'archiduc d'Autriche, et pour représenter l'Amérique, Buffalo Bill en personne, accompagné d'une tribu de Sioux avec qui tous les soirs il se produisait en spectacle. Eiffel disposait d'une concession de 20 ans pour l'exploitation de la tour, au terme de laquelle elle était livrée à la ville de Paris. D'année en année, il lui évita le démontage, pourtant envisagé dès l'origine. Et elle perdura. Aujourd'hui, qui imaginerait Paris sans elle? Tant il est vrai, comme le dit la chanson, Paris, mais c'est la tour Eiffel, avec sa pointe qui monte au ciel, qu'on la trouve laide, qu'on la trouve belle, il n'y a pas de Paris sans tour Eiffel. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire, je vous lirai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. L'épisode que je viens de vous raconter a été écrit par Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Oscar Vatter. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement votre podcast. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau récit au cœur de l'histoire.